Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Ninartri. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. L'emprise du mondialisme à crise majeure, origine aboutissement, publié en 2015 par Christian Roua chez Omnia Veritas, est un essai politique et géoéconomique en français consacré à l'interprétation d'une crise mondiale présentée comme systémique. L'ouvrage s'inscrit dans une littérature critique du mondialisme, des institutions supranationales et des réseaux d'influence transnationaux. Son objectif n'est pas seulement de décrire une conjoncture économique, mais de relier la crise financière, l'affaiblissement des États, la gouvernance internationale, les conflits et les transformations sociales à une dynamique de concentration du pouvoir. Roua s'avance que les États-nations seraient progressivement placés sous la pression d'acteurs financiers, politiques et idéologiques opérant au-delà du cadre démocratique classique. Le livre se distingue par son ambition encyclopédique, sa densité de documentaire et sa tonalité fortement accusatrice. Qui peut séduire les lecteurs critiques des récits institutionnels tout en appelant une lecture prudente et vérificatrice? Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la crise majeure comme phénomène global et non comme simple accident économique. Le point de départ du livre est l'idée que la crise contemporaine ne peut pas être comprise comme une succession d'événements isolés. Christian Roua présente les déséquilibres financiers, les tensions sociales, les conflits géopolitiques, la dégradation environnementale et la perte de souveraineté politique comme les manifestations d'un même processus historique. Cette approche donne à la crise un statut structurel. Elle ne serait pas seulement cyclique, mais orientée vers un aboutissement institutionnel. L'auteur cherche ainsi à déplacer l'analyse de la surface des événements vers leurs causes supposées profondes. La question centrale devient alors de savoir pourquoi les États-nations semblent incapables de reprendre le contrôle de phénomènes qui les dépassent. Le raisonnement repose sur l'idée que la simultanéité des crises à l'échelle mondiale indique l'existence de mécanismes communs, notamment financiers et politiques. Cette lecture est caractéristique du livre. Elle privilégie les connexions, les interdépendances et les effets de système plutôt que les explications sectorielles. Sa force est de rappeler que les crises économiques ont souvent des dimensions institutionnelles et géopolitiques. Sa limite est que l'ampleur des liens établis exige une vérification critique constante. Deuxièmement, l'affaiblissement des États-nations au centre de la thèse mondialiste. Un thème majeur de l'ouvrage est la diminution progressive de la capacité d'action des États souverains. Roua soutient que les gouvernements nationaux se trouvent pris dans un réseau de contraintes économiques, juridiques, monétaires et diplomatiques qui réduit leur autonomie réelle. Dans cette perspective, les États ne disparaissent pas formellement, mais leur marge de décision serait transférée vers des structures supranationales. Des accords internationaux, des marchés financiers et des organes de coordination politique. Le livre interprète cette évolution comme une étape vers un ordre mondial plus centralisé. L'intérêt analytique de ce tome tient au fait qu'il rejoint des débats réels sur la mondialisation, la dette publique, les traités économiques, la gouvernance européenne ou les politiques imposées par les créanciers internationaux. Roua adopte toutefois une lecture plus radicale, en considérant que ces transformations ne relèvent pas seulement d'une adaptation économique, mais d'une stratégie d'abaissement des souverainetés nationales. Le lecteur doit donc distinguer deux niveaux l'observation vérifiable d'une interdépendance croissante entre États et institutions globales, puis l'interprétation intentionnelle que l'auteur donne à cette évolution. C'est cette seconde dimension qui inscrit l'ouvrage dans une littérature fortement critique du mondialisme. Troisièmement, la cartographie des institutions financières et politiques transnationales. L'un des aspects les plus caractéristiques du livre est son effort de cartographie des organisations que Roua s'associe à la domination mondialiste. L'auteur évoque les institutions financières et économiques telles que le FMI, la Banque mondiale, l'OMC, l'OCDE ou la Réserve fédérale, ainsi que des structures politiques ou stratégiques comme l'ONU, l'OTAN, l'OMS, le groupe Bilderberg, le CFR ou la Commission trilatérale. Le propos ne consiste pas seulement à énumérer ces acteurs, mais à les intégrer dans un schéma d'influence où les décisions économiques, les normes internationales, les orientations diplomatiques et les discours publics convergerait vers une gouvernance supranationale. Cette méthode donne au livre une dimension documentaire dense, car elle oblige le lecteur à considérer la pluralité des lieux où se fabrique la décision internationale. Elle peut aussi créer un effet de surinterprétation si toutes les interactions institutionnelles sont lues comme les éléments d'un plan unique. Le mérite de cette partie est d'attirer l'attention sur la complexité réelle du pouvoir mondial contemporain. Sa difficulté est d'évaluer avec précision la différence entre influence, coopression, lobbying, coordination internationale et contrôle organisé. Quatrièmement, la préparation des opinions publiques à un nouvel ordre politique. Roua accorde une importance particulière à la dimension mentale et culturelle du mondialisme. Selon sa lecture, l'installation d'un ordre mondial centralisé ne pourrait pas reposer uniquement sur des instruments financiers ou diplomatiques, elle nécessiterait aussi une acceptation progressive des populations, des gouvernements et des institutions religieuses ou morales. Le livre s'intéresse donc aux récits de crise, aux appels à la sécurité, aux promesses de protection et aux discours présentant la gouvernance mondiale comme une réponse nécessaire à des problèmes insolubles au niveau national. Cette idée est importante, car elle montre que l'auteur ne réduit pas le pouvoir à des mécanismes économiques, il l'analyse aussi comme une production de consentement. Les crises deviennent alors des moments de réorganisation symbolique, ou les restrictions de liberté. Les transferts de compétences, ou les nouvelles normes, peuvent être justifiés par l'urgence. Cette lecture rejoint des interrogations classiques sur la communication politique et l'état d'exception. Mais Ruas la relie à une hypothèse beaucoup plus globale d'ingénierie sociale. Le lecteur y trouvera une réflexion stimulante sur le rapport entre peur, autorité et réforme institutionnelle, à condition de ne pas confondre hypothèses interprétatives et démonstrations définitives. En dernier lieu, une enquête ambitieuse dont la densité appelle une lecture critique, le livre est souvent présenté comme le fruit d'un long travail d'investigation mêlant économie, géopolitique, histoire contemporaine, organisation internationale, haute finance et référence aux sociétés secrètes. Cette amplitude explique à la fois son attrait et sa difficulté. L'ouvrage cherche à produire une explication totale de la crise, ce qui le distingue des essais économiques plus spécialisés. Le lecteur dispose d'un vaste panorama de thèmes liés à la mondialisation, mais il doit aussi affronter une construction argumentative très englobante. Lorsque l'auteur relie des institutions, des événements et des traditions idéologiques dans un même récit, la cohérence apparente peut être forte. Mais la solidité dépend de la qualité des sources, de la distinction entre faits établis et interprétations, et de la proportion accordée aux intentions cachées. C'est pourquoi ce livre gagne à être lu comme un document représentatif d'une critique radicale du mondialisme plutôt que comme une synthèse académique consensuelle. Son intérêt intellectuel réside dans les questions qu'il soulève sur la concentration du pouvoir, la souveraineté et l'opacité décisionnelle. Sa limite principale tient au risque d'une lecture conspirationniste qui attribue une intention unique à des phénomènes multiples. En conclusion, l'emprise du mondialisme ou s'adresse avant tout aux lecteurs déjà intéressés par la critique de la mondialisation, les rapports entre finance et souveraineté, les institutions internationales et les théories relatives aux réseaux d'influence. Il conviendra moins à ceux qui recherchent une introduction neutre à l'économie mondiale qu'à ceux qui veulent comprendre comment une pensée antimondialiste radicale organise ses arguments. Son bénéfice principal est intellectuel, il pousse à interroger les lieux réels de décision, la dépendance des États envers les marchés, le rôle des organisations supranationales et la manière dont les crises peuvent justifier des réformes politiques profondes. Il peut aussi servir de point de départ pour comparer les faits avancés avec des sources académiques, institutionnelles ou historiques. Ce qui le distingue d'autres ouvrages du même genre est son ambition de relier la crise économique, la gouvernance mondiale, les sociétés secrètes, la haute finance et la préparation des opinions dans une architecture unique. Cette ampleur donne au livre une identité forte, mais impose une lecture méthodique, attentive aux preuves et aux généralisations. Son intérêt réside donc moins dans une adhésion immédiate à toutes ses conclusions que dans l'examen critique d'une vision cohérente. Dans ses controversées du pouvoir mondial contemporain. Si vous souhaitez soutenir Christian Ruas, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. Oh, bientôt !